Voilà. Alors, cet après-midi, je voulais vous parler, puisque on a commencé cette session, enfin en ce qui me concerne, vous parler de Yerushalayim. Eh bien, je vais essayer de parler maintenant de la bataille spirituelle pour Yerushalayim. Bataille spirituelle qui est commencée, qui est une bataille dont on ne voit pas les effets comme ça, parce que souvent c'est vrai que quand on étudie la Bible, je l'avais déjà dit une fois ça, souvent on cherche à savoir mais comment ça va se passer? Et on gratte dans la parole de Dieu, en fait, pour connaître la chronologie. Hein? Et qu'est-ce qu'on cherche au fond? Ben, on cherche à savoir ce qui va nous arriver. Et puis, tout chrétien bien pensant se dit, pourvu que je sois enlevé avant. D'accord? Et au fond, c'est quoi ça? Ben, c'est une fuite. Pourquoi j'ai envie d'être enlevé? Hein? Il y en a beaucoup qui pensent que s'ils sont enlevés comme ça leur évitera de traverser des difficultés qui vont arriver dans le monde. Mon opinion n'est pas du tout celle-là, je vous le dis tout de suite. Moi, je pense, c'est mon opinion, elle se discute. Hein? Mais je pense que le Seigneur fera l'enlèvement à la dernière minute. Et qu'on va tout traverser. Bon, mais ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, l'histoire du peuple d'Israël, vous vous en êtes rendu compte, est tout à fait hors du commun. Ce n'est pas un plan ordinaire, leur vie. Et ce peuple a reçu, je le rappelle, la mission de porter la parole au monde et d'être des témoins de Dieu pour le monde. C'est une histoire marquée par de très grandes souffrances. Et on a de la peine à comprendre le sens de ces souffrances. Vous savez qu'il y a très peu de gens qui comprennent le sens de la Shoah. Qui comprend ça? Bon. Alors, très souvent, vous avez des amis Job qui apparaissent et puis qui disent, bah oui, finalement, les Juifs, ils récoltent ce qu'ils ont semé. Mais ça, c'est purement méchant, hein.
Oh oui.
Ça, c'est purement méchant, hein, parce
Religieux.
que attention à ce qu'on dit, hein, quand on dit des choses comme ça, parce qu'à ce moment-là, on va peut-être récolter aussi ce qu'on a semé, nous, hein. Et ça peut faire mal, hein. Non, c'est pas du tout ça. Et vous savez, quand Job, on lui disait, mais ben, tu fais la leçon à bien des gens, des bras qui tombaient de lassitude, etc., tu les fortifiais, et mais au fond, tu as sûrement péché pour qu'il t'arrive ce qui t'arrive. En gros, c'est ça. Et Job qui répond, ah, si seulement on pesait mon chagrin, en même temps, en mettant mon malheur dans la balance. Eh bien, je vous assure que ça pencherait d'un côté. Pourquoi les Hébreux ont-ils été mis en esclavage en Égypte? Question. Est-ce qu'ils avaient péché? Mais pas du tout. Pas du tout. Ils ont été mis en esclavage parce que Dieu avait besoin de les former. Et ça, c'est très important de comprendre. Moi, très souvent, je dis, Dieu est un éducateur. Hein. Je l'ai certainement déjà dit pendant cette session, mais je le répète, Dieu est un père et c'est un éducateur. Donc, il envoie les gens en stage à tel et tel endroit pendant X années, et puis après, c'est un autre stage ailleurs, etc. Et tout ça construit la vie. Et si on est un bon élève, on apprend et on grandit avec le Seigneur. Et bien entendu, au fur et à mesure, on porte des fruits. C'est comme ça. En fait, ils sont allés en Égypte, eh bien, pour pouvoir passer d'une famille à un peuple. Et ils sont sortis au bout de 400 ans, enfin c'est la parole de Dieu qui le dit, ils sont sortis en passant d'une famille à un peuple, à une nation organisée. Donc quelque chose de tout à fait différent. Je ne vais pas faire l'étude ici, mais c'est quand même quelque chose d'important à comprendre. C'est qu'ils ont complètement tout transformé. Un des rôles de Moïse, c'était, parce que vous savez que pendant ces années, pendant ces 400 ans, beaucoup se sont intégrés dans le monde égyptien. Il y en a même qui sont devenus riches. Et Raïm nous expliquait même qu'il y en a qui mettaient en esclavage leurs propres frères. C'est comme ça. Imaginez, vous pouvez très bien imaginer, l'Égypte, c'est les États-Unis, c'est tout. Et ben voilà, il y a des gens qui se sont installés de force là-bas. Et puis, ben, ils ont fait fortune. Mais alors, vous allez me dire, mais c'est quoi l'esclavage? Parce que c'est vrai, il y avait des gens qui avaient des fouets, etc. Mais l'esclavage. Mais vous vous rendez compte que la vie dans cette société ici, c'est un esclavage. Nous sommes en esclavage ici. Nous ne sommes pas libres. Alors, à un moment donné, il y a une sortie. Et un des plus grands travaux de Moïse, c'est d'aller rechercher tous ceux du peuple hébreu qui veulent bien partir. Je ne vais pas faire ici l'explication, mais sachez qu'il n'y en a que 20% qui sont partis. Oui. Et ça, on peut le prouver par les Écritures. Parce qu'à un moment donné, Dieu dit qu'ils ont traversé la mer de Jonc en rang organisé. La parole est à peu près comme ça. Mais cette expression « rang organisé », là, quelque chose comme ça, vous retrouvez pratiquement le même mot à un endroit et ça veut dire un cinquième. Et la tradition juive le confirme. La tradition dit « ils sont partis, il n'y en avait que 20% qui sont partis ». Les autres sont partis en Égypte, ils se sont perdus et se sont devenus des étincelles. Alors maintenant, les étincelles ressortent dans le monde, comme ça. Et vous savez, quand une étincelle se remet à briller, qu'est-ce que ça devient? Ben, ça devient une étoile. Vous savez, les étincelles du feu qui montent, là, hop, ça fait une étoile, et ça éclaire. C'est l'héritage d'Abraham aussi, hein, le sable et les étoiles. Bon, mais excusez-moi, ça ne fait pas partie du sujet, ça. Mais ce que je voulais quand même dire, quelque chose d'important parce qu'on va en reparler après, c'est que en quittant l'Égypte, ils ont changé de calendrier. Parce qu'en Égypte, c'était le calendrier solaire, du calendrier du Nil, très exactement, et ça fonctionnait sur les crues du Nil. Donc c'était un calendrier solaire. Et celui qui était le dieu Ra, c'était le dieu soleil. Et il était représenté par un, entre autres, par un bélier avec un soleil sur sa tête. Comme ça. Alors, bien entendu, il a fallu, pour construire le peuple, il a fallu donner des... Comme des monuments, si vous voulez. Nous, on a la Sainte-Seine. Vous voyez ? C'est un monument, la Sainte-Seine, c'est un souvenir. Hein? Eh bien, Dieu a construit des monuments pour le peuple d'Israël, et entre autres, il lui a fait tuer un agneau. Et cet agneau, finalement, c'est l'explication juive, hein, que je vous donne là. Cet agneau, c'est tout simplement la mise à mort du dieu Ra, qui était un bélier, avec un soleil sur sa tête. Donc, il fallait tuer le dieu Ra, et on change de calendrier, et on passe au calendrier lunaire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que... il ne faut pas mélanger le dieu lune et le calendrier lunaire. Hein?
Ah oui.
Mélangez pas les deux choses, surtout. Hein? Eux, ils prennent le calendrier lunaire avec les fêtes de l'Éternel, et ils sortent. Ils sortent le jour où la lune éclaire le plus. Et c'est cette nuit-là qu'ils vont mettre du sang sur les poteaux des portes. Et la tradition dit d'ailleurs qu'ils ont mis du sang à l'intérieur des maisons et non pas à l'extérieur, comme on nous le dit toujours. C'était pour pour soi-même qu'on faisait ça, parce qu'on voulait dire aux Égyptiens et à tous les autres qui étaient là, ben vous voyez, nous, notre famille s'est rassemblée, et nous, on a décidé de partir pour conquérir notre liberté. Et pendant 4 jours, eh bien, tout le monde a vu, parce que la lune grandissait, il faisait de plus en plus clair la nuit, et tout le monde voyait ceux qui se préparaient à partir. C'était un témoignage. Vous voyez ? Et donc, vous savez bien que Dieu n'avait pas besoin du sang sur les poteaux, il connaissait les siens. Donc il savait très bien qui, dans son cœur, avait envie de quitter et de partir et de conquérir sa liberté. Eh bien, c'était un signe pour eux, et la parole le dit bien. Le sang sera un signe pour vous. Alors, ils ont quitté et ils ont pris donc le calendrier lunaire. C'est important. Je reparlerai de la lune à la fin de cette étude. Alors, les Hébreux ont donc été mis en Égypte dans un but éducatif, dans le but de transformer une famille en peuple. C'était aussi un moyen, dans les Écritures, de reconnaître la descendance d'Abraham qui hériterait. Parce que Dieu a dit, ce sont eux, ceux que je vais emmener en esclavage, ils seront esclaves pendant 400 ans, et ce sera eux, la descendance, qui va hériter. Et ça fait la différence avec Ismaël, parce qu'Ismaël n'a jamais été emmené en esclavage. Et si vous comparez Ismaël et Israël, vous vous rendez compte qu'au départ, il y a 12 familles de chaque côté. C'est la même chose au départ. Mais regardez combien ils sont maintenant. Je ne sais pas combien ils sont, peut-être 1 milliard, ou 600 millions, enfin je ne sais pas combien ils sont les descendants d'Ismaël. Mais les descendants des Hébreux, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont toujours été persécutés. Donc toujours ramenés à un petit reste. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est eux qui héritent. Et qui hérite du droit d'aînesse. Alors, quand on étudie un événement dont on a connaissance avec les écrits, il faut considérer la forme et le fond. La forme, c'est ce qu'on voit quand on fait une lecture superficielle. Et le fond nécessite vraiment de plonger dans les écritures. Malheureusement, beaucoup étudient la forme pour essayer de, finalement, de se rassurer, savoir ce qui va arriver, comment ça va se passer. Et tout ça, c'est, au fond, c'est parce qu'on a peur. Et on veut se rassurer et se dire, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour sauver ma vie? En gros, c'est ça. Il ne faut pas se boucher les yeux sur ce genre de choses. Et il y a énormément de chrétiens qui, quand vous les écoutez, quand vous parlez un petit peu de la fin des temps, etc., vous découvrez qu'ils sont dans l'angoisse. Au lieu d'être dans la paix, ils sont dans l'angoisse. Quelque chose ne va pas. Pourquoi ? Parce qu'ils en restent à la forme des choses, ils ne vont pas dans le fond. Et puis, peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas une confiance totale en Dieu. Alors, les événements de la fin des temps, et particulièrement la bataille de Jérusalem, ça forme un ensemble chaotique, compliqué, au moins aussi important que le déluge. Au moins aussi important que le déluge, parce qu'on va changer d'air. Quand il y a eu le déluge, on a changé d'air. Et c'est le cas ici, ce qui va arriver. Et bien sûr, vous savez bien que le Seigneur nous a prévenu dans Matthieu 24, 39, ça va être brutal, puisqu'il dit « ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte à tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc vous voyez que c'est un événement de la hauteur du déluge. Alors, vous imaginez, c'est pas rien quoi. Et dans cette immense confusion du monde, les deux formes de descendance d'Abraham, donc le sable de la mer et les étoiles du ciel, ces deux formes ne vont plus former qu'un seul. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, il y a actuellement, et vous avez certainement remarqué, un grand tri qui se fait dans les églises, mais pas seulement. Vous savez que le monde juif est au moins aussi divisé que le monde chrétien. Au moins. C'est incroyable les divisions qui existent tout partout. Alors, durant la période finale, le dernier temps, qu'est-ce qui se passe? Les anges, donc des messagers de Dieu, et les démons vont jouer un rôle très important. Ils jouent un rôle très important. Le ciel et la terre vont être bouleversés. Et il va se faire un très grand tri, parce que Dieu va séparer les uns des autres. C'est commencé, et c'est l'histoire des sept paraboles du royaume, hein. La dernière, dans Matthieu 13, versets 26 à 39, on parle de la moisson. Hein? Eh bien, je vous lis la version Chouraki, parce que ça va vous parler davantage, vous allez voir. Quand le blé germe et produit son fruit, alors les isanies apparaissent aussi. Laissez-les croître ensemble tous les deux jusqu'à la moisson. Au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, ramassez d'abord les isanies. Ah tiens. Liez-les en bottes pour les brûler. Quant au blé, ramassez-le dans ma grange. L'ennemi qui les a semés, c'est le diable. La moisson, c'est l'achèvement de l'air. Les moissonneurs sont des messagers. Alors, de nombreux enseignements ont été donnés sur la fameuse puissance d'égarement. Tout le monde connaît ce passage. Hein? Mais je vais vous le lire dans la version Chouraki, parce qu'il ouvre les Écritures d'une autre façon. Il prend les vrais mots, et j'aime bien. Parce que, alors, il y a une version que j'aime pas du tout, c'est la version en français courant. Elle ne veut plus rien dire. Mais la version Chouraki, c'est intéressant quand même. Par moment, il fait des erreurs aussi, hein, mais bon. 2 Thessaloniciens 2, versets 7 à 12. Oui, le mystère de la non-Torah œuvre déjà. La non-Torah, vous entendez bien. Celui qui retient est maintenant là, jusqu'à ce qu'il soit écarté, alors sera découvert le sans-Torah. Celui qui n'a pas la Torah sera découvert le sans Torah. Que la donne Yeshua détruira par le souffle de sa bouche, qu'il anéantira dans l'éclat de son avènement, celui dont l'avènement est, selon l'énergie de Satan, lié à tous les dynamismes, les signes, les prodiges du mensonge et à tous les abus de l'injustice, pour ceux qui périssent, faute de recevoir l'amour de la vérité pour être sauvés. Pour cela, Elohim leur enverra l'énergie de l'égarement pour les faire adhérer au mensonge, afin qu'ils soient jugés, tous ceux qui n'ont pas adhéré à la vérité mais se sont corrompus dans l'injustice. C'est une autre traduction. J'aime beaucoup cette traduction parce que ça nous fait penser autrement. Alors, on peut être choqué par ça, parce que Dieu fait, mais j'ai bien aimé ce que Michel disait hier, c'est le jugement qui va tomber. Et le jugement, je pense qu'il est commencé. Tout simplement parce que la fin des temps, c'est le temps des comptes. On va faire les comptes. Et depuis des siècles après Noah, après Noé, le monde est habité par des hommes pécheurs. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais l'Écriture nous dit qu'il se distingue en deux catégories. Il y a les non-Torah et il y a ceux qui ont la Torah. Deux catégories. L'Écriture dit ceux qui aiment la vérité et ceux qui ne l'aiment pas. C'est la même chose. Et vous savez bien que Yeshua HaMashiach, c'est la Torah faite chair. J'aime beaucoup quand, à la fin de Sukkot, le huitième jour, on fait Shimra Torah. Shimra Torah, c'est la joie de la Torah, où on prend les rouleaux de la Torah dans ses bras, et puis on danse avec. Parce qu'on le met sur son cœur, hein, parce qu'on considère que c'est Dieu. Et on danse avec Dieu, avec Yeshua. C'est très beau, c'est très émouvant, hein, c'est quelque chose, vous savez. J'ai eu le droit de faire ça le jour où je suis parti en retraite. C'était mon cadeau de retraite. C'était les premières heures de ma retraite. On est juste d'avoir bu le pot de ma retraite. Et puis, on est allé là-bas et j'ai eu le droit de prendre la Torah dans mes bras. Et comme si le Seigneur me disait maintenant, c'est la Torah. Tu as fini ton travail, maintenant c'est la Torah. Et le Seigneur m'a mis en route sur la Torah. Alors, les non-Torah sont des personnes... Ça ne veut pas dire que ce sont des gens qui ne connaissent pas la Torah. Non, ça peut être des gens qui connaissent la Torah de Yeshua. Mais ce sont des personnes qui n'appliquent pas la Torah dans leur vie. Ce sont des non-Torah. Alors, il s'agit de personnes qui... Bon, je vais prendre quelques idées comme ça, mais vous pourrez rallonger la liste. Qui, au mépris de toute humanité, écrasent les autres, exploitent, mettent en esclavage, profitent à court terme sans s'occuper du bien d'autrui, ils détruisent la terre. Pensez un peu à tout ce qu'on fait là, dans la nature. Ils détruisent les moyens de survie de l'humanité. Regardez ce qu'on fait à la mer, aux océans. Ils détruisent le monde par les guerres. Vous savez que les guerres sont alimentées. On alimente les guerres, ça fait gagner de l'argent. Ils organisent les famines. Tout ça, c'est la non-Torah. C'est un monde que Dieu va détruire. Et vous savez, quelquefois on dit, mais Dieu va juger, ça va être terrible. Et on serait tenté de dire, Dieu il est quand même sévère, il est quand même méchant en faire ça. Moi, je vais vous dire une chose. J'ai pas toujours pensé, ça fait quelques années. J'ai découvert que quand l'homme a péché et que Dieu a dit « parce que tu as fait ça, tu vas mourir ». J'ai dit « si le Seigneur a fait ça, c'est qu'il avait une bonne raison de le faire. C'est un cadeau qu'il nous a fait ». Vous allez dire « c'est choquant ». Oui, c'est un cadeau qu'il nous a fait, parce que s'il n'avait pas fait ça, tous les méchants de la terre, les Hitler et compagnie, seraient encore vivants. Qu'est-ce que vous feriez? Heureusement que nous avons une vie limitée dans l'état où nous sommes.
Absolument.
Heureusement. Ce serait une catastrophe. Alors, on passe les uns derrière les autres, on s'en va au cimetière. Et puis, si nous avons eu foi en Yeshua, nous ressusciterons, mais dans une autre forme. Dans un autre corps, qui ne sera plus corruptible. Alors, la Torah, si on en fait le résumé, vous savez, les pharisiens, ils aimaient bien tester les gens. Et ce qu'ils aimaient bien faire, c'était de classifier les lois. et dire quelle est la loi la plus importante, quelle est la loi la moins importante, et on faisait comme ça des strates, voilà, organisation. Par exemple, en Israël, encore maintenant, bien sûr, c'est le Shabbat est très important. Donc, à Shabbat, on s'arrête. Mais si quelqu'un est blessé sous nos yeux à Shabbat, ben on le soigne. C'est-à-dire que la loi de la vie passe au-dessus du Shabbat. Vous voyez, c'est comme ça. Donc il y a des hiérarchies. Et alors tout de suite, ils sont allés voir Yeshua, il lui dit, et quelle est la loi la plus importante? Et il a répondu, quel est l'ordre le plus important de la Torah? Il lui dit, tu aimeras Adonai, ton Elohim, de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton intelligence. Tel est le plus grand et le plus premier des ordres. Le deuxième lui est semblable. Tu aimeras ton compagnon comme toi-même. À ces deux ordres sont suspendues toute la Torah et les inspirés. Toute la Torah dans deux ordres. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si on n'a pas ces deux choses-là, on est non-Torah. Vous savez, ça ne sert à rien de pratiquer des rituels, de manger kasher ou je ne sais pas quoi, si on n'a pas ça. C'est l'essentiel, ça. C'est celui qui est au-dessus, c'est-à-dire celui qui touche Dieu. C'est le plus important. Alors, il est curieux quand même, ça m'a fait réfléchir cette question. J'ai dit ça quand même. Dieu ordonne qu'on l'aime. Vous savez aimer sur ordre, vous ? Ça m'a fait réfléchir ce truc-là, hein. Est-ce que l'amour se commande? Le premier ordre, pour pouvoir lui obéir, le minimum, c'est d'avoir la foi. C'est de croire que Dieu existe. C'est le minimum. Et ça, le diable l'a aussi. Il sait que Dieu existe.
Et il croit.
Et il croit, bien sûr. Et il tremble, oui, bien sûr. Parce qu'il connaît aussi son destin. Mais voyez-vous, on ne peut pas... Enfin, c'est mon opinion. Je sais bien qu'il y a des gens qui ont des coups de foudre. En général, ça ne dure pas plus de 2 ans, d'ailleurs. C'est la moyenne. Mais je pense qu'on ne peut pas aimer vraiment quelqu'un si on ne le connaît pas. Il faut pouvoir l'apprécier, le chercher à le connaître et l'apprécier pour l'aimer. C'est-à-dire que l'amour, c'est quelque chose qui va grandir au fur et à mesure qu'on va le connaître. Par conséquent, il est sous-entendu dans cet ordre qu'il faut apprendre à le connaître pour pouvoir l'aimer. Et finalement, l'ordre, c'est « apprenez donc à me connaître ». Et pour apprendre à le connaître, il faut connaître la Torah, la parole de Dieu, et l'expérimenter.
Absolument.
Si vous ne faites pas d'expérience, ben c'est de la théorie. Moi, je n'aime pas ma femme de manière théorique. Je pratique, je vous le dis tout de suite. Ben oui. Enfin, quoi, c'est quoi l'amour? Non? Alors, croire que Dieu existe. Paul nous a dit, regardez donc la nature. C'est-il pas admirable, ça? C'est une merveille. Alors, quand il parle de la nature, Paul il dit, ben, les hommes, ils ont une preuve devant les yeux tous les jours de l'existence de Dieu. Parce que franchement, si c'est pas beau ça, c'est, pour moi c'est une évidence. Mais vous savez, moi j'ai été chercheur et j'ai travaillé avec des gens du CNRS. Et il y avait parmi ces gens-là des gens, c'est tout des gens très intelligents, qui travaillaient, moi c'était mon domaine, c'était les couleurs. Alors on travaillait dans les couleurs et il y avait des gens qui savaient expliquer comment fonctionnaient les couleurs qu'il y a sur les pieuvres, comment fonctionnait un œil de mouche, enfin, tous des trucs qui ont trait à la couleur, comment fonctionne le cerveau pour ça, etc. Très intéressant. Et quand je leur disais, mais vous ne pensez pas qu'à travers tout ça, il y a Dieu ? Ah non, 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 c'est la théorie de l'évolution, hein. Ça a évolué comme ça, et jamais, jamais, j'en ai pas trouvé un qui mettait Dieu devant ces choses-là. Ils sont aveuglés, et c'est comme ça. Alors, Paul dit, ils se sont vidés en rumination, et l'inintelligence de leur cœur s'est enténébrée. Se disant sages, ils sont devenus fous. Et certains hommes étudient les merveilles de la création sans pour autant en rendre gloire à Dieu. C'est quand même formidable, ça. Moi, ça me choque. Mais c'est comme ça. Alors, ils ont remplacé Dieu par la théorie de l'évolution. Parce que quand on ne veut pas croire, on ne croit pas. Et quand on ne veut pas croire, il n'y a pas de danger qu'on aime. Il n'y a pas de danger qu'on aime Dieu. Donc c'est le premier aspect de la Torah. Le deuxième aspect de la Torah concerne l'amour des autres. Et là aussi, on peut aimer les hommes. Moi je connais beaucoup de gens qui aiment les hommes. Parce que, attention, on peut faire semblant d'aimer les hommes. Hein, moi je connais des... J'ai vu des étudiants qui faisaient partie d'ONG, etc. Donc, ils aimaient les gens. Et puis, quand je discutais avec eux, je disais, mais finalement, vous allez aider les autres comme ça, mais pour qui vous le faites ? Pour eux ou pour vous ? Et il y a beaucoup de gens qui aident les autres, ou aiment les autres, entre guillemets, mais c'est pour eux-mêmes, hein. Ils se glorifient eux-mêmes, hein. Ils disent, ils rentrent le soir chez eux en disant, ben voilà, je suis quelqu'un de bien, j'ai fait ça. En gros, c'est ça, hein. Mais vous avez des gens, quand même, sur cette terre, qui savent donner gratuitement. Ça existe. Ça existe. Et ça pose problème, hein. Ils ont des vies remplies pour l'amour des autres personnes, sans pour autant manifester quoi que ce soit pour Dieu. Autrement dit, ils appliquent le deuxième commandement de la Torah sans appliquer le premier. Alors c'est un peu choquant, hein ? Mais Dieu connaît les motivations de chacun. Pourquoi sont-ils comme ça ? Dieu connaît. Mais il y a cette dissociation, quelque chose manque. Pourquoi ne veulent-ils pas de Dieu dans leur vie ? Eh bien, peut-être parce que l'image qu'on leur a donnée de Dieu était très mauvaise. Le témoignage qu'ils ont vu à droite, à gauche, était catastrophique. C'est possible, et ils ont rejeté en bloc tout ça. Qui d'entre nous peut affirmer obéir à ces deux commandements comme Dieu le veut? C'est Dieu qui juge les cœurs, hein.
C'est ce que Jésus a dit, a ajouté au commandement qui avait été donné à Moïse, Dieu m'a entendu de toutes tes paroles, de toute ton âme, de tout ton cœur, et Jésus a rajouté de toutes tes pensées.
De toutes tes pensées. Donc vous voyez. Alors, il faut au moins, c'est le minimum, être en route pour essayer d'appliquer au mieux dans nos vies et d'apprendre à le faire, au moins ces deux commandements. C'est les deux plus importants. Hein? Et maintenant, On va parler de cette fameuse puissance d'égarement. Qu'est-ce que c'est qu'un égarement ? Un égarement, c'est perdre la raison. C'est-à-dire perdre le chemin. Quand on s'égare, moi je me souviens, on s'était promené une année dans la montagne, Véronique et moi. Alors on suivait les panneaux fléchés, hein, toc, toc, toc. Et puis à un moment donné, on l'a pas vu. Ça faisait une fourche. Plus de panneaux. Alors là, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on essaye, hein, on en prend un. Et puis on marche, on marche, on marche. Plus rien. Qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est comme ça ? Il n'y a pas 36 solutions. Il faut revenir. Reviens là où tu t'es perdu. Et puis part dans l'autre. Il n'y a pas 36 solutions. Hein. C'est comme ça. Alors, avant d'énumérer les fruits affreux de l'égarement, rappelons que le simple fait de ne pas chercher à aimer les autres, c'est être non-Torah. Le fait de ne pas chercher à aimer Dieu, donc à chercher à le connaître pour l'aimer, c'est être non-Torah. D'accord ? Parce que c'est vraiment les deux principaux. Le reste, j'allais dire, c'est du développement. Hein ? Alors, le dérèglement ne va pas forcément conduire les gens au dérèglement sexuel, non ? Ça, c'est un des pires, mais ça ne va pas forcément conduire à la débauche. Mais ça conduit à maintenir les gens dans un état de non-Torah. Vous savez, quand Dieu dit qu'à la fin des temps, les cœurs seront endurcis, insensibles, déloyaux, etc. Endurcis. Ben, endurcis, quand tu as le cœur endurci, tu ne sais plus aimer. Tu as le cœur comme une pierre. Il n'est plus question ni d'aimer ton voisin parce qu'il t'a fait des crasses et puis que tu n'arrives pas à lui pardonner. Et puis, tu n'aimes pas non plus Dieu parce que tu es en colère contre lui parce que ton enfant il a une blessure à son pied ou je ne sais pas quoi. Et puis, tu es en colère. On a des colères en dessous. Hein. Prendre plaisir à l'injustice, c'est quoi ? Prendre plaisir à l'injustice, c'est trouver son bonheur dans quelque chose d'injuste. Il faut réfléchir un peu à ça. Moi, je me suis mis à réfléchir à ça il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Lorsque nous apprenons la vérité sur quelque chose, exemple, vous apprenez la vérité sur la façon avec laquelle on a cueilli le café que vous buvez le matin. Vous vous rendez compte et vous apprenez que ce sont des enfants qui sont mis en esclavage quelque part. C'est pas de l'injustice, ça ? Pourquoi est-ce qu'on va continuer à acheter ce café-là ? M'excuse, hein, mais là, il y a des questions qui sont posées derrière. Alors, on va acheter ce café-là parce qu'il est moins cher. Oui, mais attendez, on alimente l'esclavage, là. Les vêtements, c'est pareil. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Mais quand on sait...
Et quand on veut savoir.
Et quand on cherche à savoir. Alors, on fait attention. Vous voyez ? Prendre plaisir à l'injustice. Il y a des choses comme ça par derrière. Quand on apprend la vérité sur quelque chose, et si on profite quand même de cette chose-là, eh bien, on participe à l'injustice. La vie selon la Torah consiste à aimer notre Dieu et à vouloir rétablir la justice autour de nous et un peu, tout le petit peu d'influence qu'on peut avoir pour rétablir la justice, il faut le faire. C'est ça, être Torah. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés que l'on rompe tout aspect de joue. Voilà. C'est ça. Quand on lit dans Michée 6:8, On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Pratiquer la justice. Eh bien, voyez-vous, on a constaté, mais ce n'est pas un jugement, je dis, moi, c'est simplement des constats. Hein. Il y a dans les églises, parce qu'on parle d'une puissance d'égarement, hein, le mot égarement fait que ce sont des égarés. D'accord ? Eh bien, dans les églises, il y a de nombreux égarés. Pourquoi ? Parce qu'ils ne vivent pas concrètement la Torah. Ils finissent par planer, écoutez bien ce que je vais vous dire, et ils finissent par planer dans un mysticisme qui les occupe à ne rien faire. Je recommence. Ne vivant pas concrètement la Torah, ils finissent par planer dans un mysticisme qui les occupe à ne rien faire. Ils planent. On dirait des, je sais pas, des... Ils planent. Oh, Dieu m'a dit. Et Dieu t'a pas dit d'aller voir ton voisin pour l'aider? Dieu m'a parlé pour toi. Oh. Bon, ben on va voir si c'est vrai. Et j'ai constaté que ces gens-là, ils planent. Mais ils planent, ils ne sont pas sur terre. Littéralement.
C'est dans quoi, ça?
Hein?
C'est dans quoi?
J'ai pas compris.
C'est 6, c'est ça?
Non, ça c'est moi qui l'ai dit. Ça c'est Daniel 1. Ah, Miché, c'est Miché 6-8. Miché 6-8. Vous savez, toutes les personnes qui sont à la recherche de sensations ou de manifestations mystiques, toutes ces personnes-là, elles planent et elles sont non-Torah. Il faut le savoir. On n'est pas là pour le mysticisme, on n'est pas là pour avoir des sensations. D'accord ? Le Seigneur a dénoncé avec force toute forme d'hypocrisie. Par conséquent, tous ceux qui ont des comportements doubles sont des égarés. D'un côté, ils dénoncent le péché, et de l'autre, ils sont injustes et méchants. Il y a énormément de gens comme ça. Bien souvent, ils sont les premiers à dénoncer le péché et à crier haut et fort qu'ils sont sauvés par grâce, mais ils pratiquent le péché. Aïe, aïe, aïe. Mais ça rejoint ce que Michel disait, hein. Tout à fait. Hein. Alors, Matthieu 23, verset 28 dit « Au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et sans Torah. » Sans Torah. La Torah, c'est quelque chose de très concret. Je crois pour ma part que quelqu'un qui est très spirituel, c'est quelqu'un qui est en même temps très concret, très pratique. C'est très pratique. La foi est très pratique. C'est pas du tralala. Hein? Yeshua nous a dit, ne regardez pas le tralala, regardez les fruits. Les fruits de vie des gens. Quels sont les fruits? Et les fruits, c'est pas du cinéma. Les fruits, c'est de l'amour. C'est apporter la joie. C'est apporter toutes ces choses-là. C'est reconstruire des gens. C'est les délivrer. C'est rétablir la justice quand on peut le faire. C'est toutes ces choses-là, les fruits. Et ça, c'est quelque chose de concret, c'est pratique. Et on peut le faire chacun dans son métier, chacun là où on est, là où le Seigneur nous a mis. Il n'y a pas de hasard. Le Seigneur a tout préparé d'avance pour chacun. Je vous rappelle juste en passant, Jacques qui disait « Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Satan, à la foi, regardait ses œuvres. Ben oui. Un jour, une dame disait à un serviteur : je suis croyante, mais pas pratiquante. J'ai connu, hein, ça. Alors il lui a répondu : ah bon, alors, donc vous faites comme le diable, alors ? Ben oui, les croyants, mais pas pratiquants. Eh oui, c'est comme ça. La notion de pratiquer, c'est quelque chose d'important. Est-ce aimer concrètement son prochain, selon le cœur de Dieu ? Est-ce que c'est ça la foi ? Oui. C'est aimer son prochain selon le cœur de Dieu. Ça n'est pas pratiquer des actes superstitieux. Il y a beaucoup d'actes religieux qui ne servent à rien. Et on se rassure avec ça. Mais par contre, s'aimer les uns les autres, c'est autre chose. C'est pas facile de s'aimer les uns les autres, hein. Je vais pas vous faire un dessin, hein. C'est pas facile, hein. On s'en prend des baffes, hein. C'est comme ça, hein. Mais le Seigneur veut faire un peuple, hein. Une famille, un peuple. Une nation de sacrificateurs. Alors Dieu les livre à leurs penchants, et toutes les idolâtries sont des égarements, et tous les égarements finissent en finale dans l'impureté. Et Paul nous explique l'enchaînement, parce que les hommes sont inexcusables, parce qu'ils ont la nature. Ils sont inexcusables, Dieu existe. À partir du moment où on sait que Dieu existe dans la nature, eh bien, on peut commencer à le chercher.
Parce oui. Que comme elle demandait une référence biblique.
Oui. Vas-y, Michel.
Par rapport à tout ça, oui. Dans Colossiens 2:18, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte aux anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dans tout le corps. Assister solidement assemblé par des jointures et des liens qui est l'accroissement que Dieu donne. Voilà, c'est très proche.
Merci. Alors, Paul dit, comme ils n'ont pas connu Elohim, mais ne l'ont pas glorifié comme Elohim, ni remercié, mais ils se sont vidés de leur rumination. Et l'inintelligence de leur cœur s'est enténébrée, se disant sages, ils sont devenus fous. Aussi, Elohim les a livrés dans leur convoitise de leur cœur. Vous voyez, il n'y a pas de hasard, on est livré à partir de ce moment-là à ses propres penchants. Et le rejet du premier aspect de la Torah, que nous avons étudié plus haut, conduit à une sorte de folie, qui consiste à assouvir tous les besoins de son cœur et de son corps. C'est une folie, et l'homme à ce moment-là réagit non plus comme un homme, mais comme une bête. Il assouvit ses besoins, c'est tout. C'est comme ça. Et vous savez que moi, j'aime bien ce mot. Le déluge, en hébreu, vous savez comment ça se dit ? Le maboul. Le maboul. Ben, il y a plein de maboul maintenant. Parce qu'il y a un déluge dans beaucoup de têtes. Alors, voilà donc le spectacle actuel du monde, hein, et de l'Église. Hein. C'est comme ça. Et comme on a parlé de Yerushalayim, on se dit, mais comment ça va se passer pour que justement cette Yerushalayim monte et que Babylone s'abaisse en même temps, puisque ça fait toujours comme ça. Hein. La grande bataille pour le contrôle de Jérusalem. Je ne parle pas de la bataille militaire. Hein. M'attendez pas sur ce terrain-là. Ça, c'est la bataille militaire, c'est ce qu'on voit. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est la bataille spirituelle qui est en dessous. Vous pensez bien que tout ce qui se fait dans le monde, surtout autour d'Israël, est spirituel. C'est une guerre spirituelle. Et les éléments militaires et tout ce que vous voulez, ça n'est que l'apparence des choses. On inverse les choses là. Donc, la bataille pour Jérusalem, elle est d'abord dans la profondeur du cœur de chacun d'entre nous. Elle se passe d'abord en nous. Le monde est dans une confusion totale, donc dans le maboul, hein, le maboul des pensées et des idées, et l'homme est ainsi fait qu'il a besoin de s'accrocher à un guide pour trouver un sens à sa vie. Là, vous avez au moins 80%, si pas plus, d'hommes et de femmes sur la terre qui sont des suiveurs. C'est toujours le 80-20, vous savez, hein. Vous connaissez ça, hein. Bon, ben, il y en a 20% qui font, et il y en a 80% qui attendent.
Et qui râlent.
Non, mais dans les 20%...
Ça, c'est les Français.
Oui, mais tous les Français râlent. Là, c'est 100%.
Ah, oui, là, c'est 100%.
Mais j'en fais partie, hein, je vous le dis. Ça, c'est 100%. Ça, c'est vrai en plus, hein. C'est terrible, hein. Mais c'est comme ça, bon. Mais Dieu va nous délivrer, hein. Avec moi, il y aura du boulot, mais bon. Alors, dans ce chaos planétaire, les guides, entre guillemets, les guides se sont multipliés. Moi, j'appelle ça des porte-drapeaux. Ils pensent avoir trouvé un chemin, et ils entraînent à leur suite une multitude d'êtres humains. Et Pierre savait bien ça. Hein. Dans 2 Pierre 2.1, on lit « De faux inspirés furent aussi dans le peuple, comme il y aura parmi vous de faux enseigneurs, de faux enseignants, qui introduiront subrepticement des hérésies ruineuses. En reniant le maître qui les a rachetés, ils attireront sur eux une ruine soudaine. » Il ne faut pas oublier, Michel l'a rappelé, que tout, absolument tout, est sous le contrôle de Dieu. Satan ne fait que ce qu'il peut faire. Et comme je disais, il ne le fait que dans sa nature de serpent. Donc avec les moyens d'un serpent. Et ses moyens sont quand même limités. Il ne peut pas tout faire, heureusement. Et donc, le but est de faire tomber les non-Torahs. C'est son but à Satan. Parce que Dieu lui a laissé l'autorisation de faire tomber les non-Torahs. Nous sommes libres d'être Torah ou non Torah. Nous avons le droit de choisir librement. Maintenant, si nous décidons de ne pas choisir la Torah, nous sommes non Torah. Et à ce moment-là, nous sommes destinés à tomber sous les coups du serpent. C'est comme ça, c'est simple. Voilà, moi je préfère pas. Alors, dans la suite des temps, Ésaïe 2, versets 2 et 3. Le mont de la maison de Adonai sera ferme en tête des monts, élevé plus que les collines. Toutes les nations afflueront vers lui. Des peuples se multiplieront et diront : Allons, montons au mont de Yahvé Adonai, à la maison de l'Élohim de Jacob. Il nous enseignera ses routes. Allons dans ses voies. Oui, de Sion sort la Torah et la parole de Adonai de Yerushalayim. J'aime ces traductions-là parce qu'elles sont belles. La bataille de Jérusalem, c'est donc la bataille pour la Torah. Et toutes les nations sont appelées à monter à Sion, pour la Torah. C'est sûr que si nous ne voulons pas suivre la Torah, pas la peine. Nous sommes dans l'autre camp. Et lors de la conquête de Canaan, Josué a été confronté à un obstacle majeur. C'est Jéricho. Voilà. Alors, on va parler un petit peu de Jéricho, parce que c'est important. Et actuellement, c'est un obstacle majeur dans la conquête de tout le territoire pour Israël, parce que Israël est quand même cerné actuellement, hein, et il y a Jéricho en face, et Jéricho n'est qu'un rejeton de Babylone, si vous voulez. C'est une épine dans le pied. Alors, qu'est-ce que c'est que Jéricho ? Jéricho, c'est la ville la plus basse du monde. C'est déjà quelque chose. Elle est à moins 240 mètres en dessous du niveau de la mer. C'est la ville la plus basse du monde. C'est sans doute une des plus anciennes villes du monde. Moïse a vu, et nous on a eu l'occasion de monter sur le mont Nebo, il a vu de loin Jéricho, parce que Jéricho est tout en bas dans la vallée. Et cette ville profite de nombreuses sources d'eau froide et tiède aussi. On y cultive des citrons, des oranges, des bananes, des melons, des figues, des raisins, des oléagineux. Et on l'appelle la ville des palmiers, parce qu'il y a beaucoup de palmiers aussi. Et lorsque la ville a été prise par Josué, vous connaissez l'histoire en faisant le tour plusieurs fois, cette fois, puis le dernier jour cette fois, hein, eh bien, Josué a prononcé une malédiction sur Jéricho. Je vous la lis. C'est dans Josué 6, au verset 26. Ce fut alors que Josué jura, c'est important ce mot-là, hein, en disant, « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » Et c'est ce qui est arrivé. C'est arrivé au temps d'Élie, au temps du roi Achab, au temps de Jézabel, donc, toujours la même. Voilà. Eh bien, on lit à cette époque-là la chose suivante. 1 Roi 16:34. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. 500 ans après. Vous voyez que la parole de Dieu, de toute façon, s'accomplit. Alors ça, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut se tortiller dans tous les sens, la parole de Dieu s'accomplit. Et à la fin de cette étude, vous verrez une parole de Dieu qui est très bizarre, qui aurait dû s'accomplir il y a 3000 ans, et qui va s'accomplir maintenant. Alors, après que Élie a été enlevé dans le char, c'est Élisée qui a pris la succession, vous connaissez l'histoire. Et puis, il est allé à Jéricho, la ville maudite. Et il est écrit dans 2 Rois 2:19, « Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Mauvaise et stérile. C'est alors que Élisée, et Élisée c'est une image de Yeshua, hein, absolument remarquable, hein, Élisée dit la chose suivante. Deux Rois 2, versets 20 et 22. Apportez-moi un plat neuf, mettez-y du sel. Et ils lui apportèrent. Il alla vers les sources d'eau, y jeta le sel, et ainsi parle l'Éternel, j'assainis les eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Donc vous voyez l'histoire de Jéricho, c'est une histoire intéressante qui était finalement une ville maudite, mais que Dieu vient finalement purifier, vient en purifier les eaux. Et les eaux, vous savez que c'est la nourriture spirituelle. Pourquoi ? Pour en sauver les habitants, hein, parce que, attendez, cette eau donnait la stérilité. Vous vous rendez compte ? Finalement, c'était une eau empoisonnée. Donc, quelque chose n'allait pas dans cette ville, et Élisée, qui est l'image de Yeshua, vient changer cette ville. Mais revenons à la prise de Jéricho. On a tourné cette fois. Ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est qu'il n'y a pas eu, mais pas du tout, besoin d'armes. C'est uniquement un combat spirituel. Uniquement. Et ça, c'est quelque chose absolument d'essentiel, parce que s'ils ne prenaient pas cette ville-là, de toute façon, ils ne pouvaient pas rentrer dans la terre promise. C'était le premier obstacle. Et vous savez, ça fait partie de ces choses qu'il faut bien comprendre. Quand Dieu dit, allez, voilà, maintenant vous allez sortir du désert, et cette terre-là, je vous la donne. Je vous la donne. Mais maintenant, vous allez la prendre aussi, hein. Et il y a du combat spirituel, il y a du combat physique, il y a de tout. C'est-à-dire que Dieu donne à condition que tu ailles prendre, que tu ailles le chercher. C'est à toi. Mais si tu n'y vas pas, ben les autres ils vont rester là. Parce qu'on s'imagine quelquefois dans le monde chrétien que Dieu allait nettoyer toute la terre promise et chasser tout le monde. Allez, j'ai tout nettoyé, maintenant vous pouvez vous installer. C'est pas ça Dieu, hein. C'est pas vrai, hein? Il faut conquérir. Alors, en hébreu, le mot Jéricho, c'est Yerecho. Yerecho vient d'une racine qui se dit Yareach. Yareach, ça signifie lune. Nous y voilà. C'est une ville dont le nom est lune. J'ai pas dit calendrier de la lune. J'ai dit lune. Quelle est donc cette ville de la lune? Ça a un sens spirituel très fort, vous pensez bien. Parce que autrefois, chaque ville avait un dieu local. Il y avait des villes où on adorait le soleil, il y avait des villes où on adorait la lune. Il y avait des villes où on adorait autre chose. Chaque ville avait son dieu. Hein? Il fallait bien être organisé. Donc, pour soumettre la population, il faut un dieu. Là, c'était la lune. Il faut savoir que le dieu lune a été adoré par les Babyloniens. Et les Babyloniens l'appelaient Sin, S-I-N. D'accord ? Et que ce dieu lune est représenté sous la forme d'un humain, avec une longue barbe, comme moi. Hein ? Et puis, il portait un manteau, alors ça je ne l'ai pas, avec un croissant de lune derrière. C'était une sorte de prêtre à la lune, si vous voulez. Vous savez bien qu'Ismaël s'est emparé du symbole de la lune. Il s'est emparé du symbole de la lune pour sa religion. Il ne faut pas oublier les origines de l'islam. que l'emblème de cette religion, c'est le croissant lunaire en forme de dé, hein, donc croissant qui débute, et il est placé sur les mosquées, dans tous les drapeaux islamiques. Et on a déjà eu l'occasion dans d'autres études de dire que l'origine d'Allah, c'est le dieu arabe Allah, le dieu lune, qui était adoré à la Mecque au temps de Mahomet. Le dieu lune. Alors, je vous dirai que dans le Coran, moi j'ai lu le Coran, nulle part il est dit qu'il faut adorer la lune. D'ailleurs, c'est interdit. Mais tout est caché. Tout est caché. Alors, quel est le rôle de cette Jéricho spirituelle, avec comme dieu lune? Jéricho, ça n'est pas une ville inerte. C'est une forteresse militaire et spirituelle dont l'objectif est de diriger le monde. Vous voyez à quoi je pense. D'accord ? Il s'agit d'une guerre spirituelle. Jéricho est une ville qui n'est pas inerte, c'est une ville qui est très bien organisée, forteresse militaire, spirituelle, dont l'objectif est le contrôle du monde. D'accord ? Avec, bien entendu, comme Dieu, la lune. Et bien entendu, il s'agit d'une guerre dont l'objectif est le contrôle de Jérusalem. Vous comprenez bien pourquoi il y a tant de problèmes avec l'esplanade du temple. Qu'est-ce qui est actuellement sur l'esplanade du temple ? Le dieu lune. Évidemment. C'est la Jéricho spirituelle. Mais elle n'est pas que spirituelle, elle est aussi militaire. Regardez ce qui se passe dans le monde actuellement. C'est vraiment une question militaire aussi. Les soldats de Mahomet, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'infiltrent dans la Babylone. Je ne vous fais pas un dessin. Pour obtenir de Babylone les soutiens nécessaires à la domination de Jérusalem. Je répète, les soldats de Mahomet s'infiltrent dans Babylone pour obtenir de Babylone les soutiens nécessaires pour contrôler Jérusalem. Pour empêcher que la Jérusalem de Dieu vienne. Pour empêcher qu'elle apparaisse. C'est ça la véritable guerre spirituelle actuelle. C'est ça. Et j'avais déjà dit, je pense la fois dernière, qu'il y a effectivement ce mariage qui se fait entre la Rome, la Grèce romaine, on va dire, avec la franc-maçonnerie, qui épouse les soldats de Mahomet, qui est donc la descendance d'Ishmaël, et qui ensemble se mettent à contrôler l'ONU, etc., etc. Mais l'objectif, c'est la main sur Yerushalayim.
Amen.
Bien entendu, il n'y a pas d'autre objectif. Et la seule raison pour laquelle ils s'entendent, c'est la raison de mettre la main sur Yerushalayim. Mais les juifs disent même, le jour où ils seront à la porte de Jérusalem, ils vont se disputer parce que qui est-ce qui va à la fin contrôler Jérusalem? Alors ils vont se disputer, ils vont s'entretuer tout seuls. Moi j'aime beaucoup ça.
Comme devant Josaphat.
Ah, moi j'aime beaucoup parce que c'est... Ils cédèrent les uns les autres à s'entretuer. Dans les instances internationales, les pays islamiques sont majoritaires. Ça leur permet de voter tout ce qu'ils veulent en faveur de ce qu'ils veulent. C'est comme ça que ils ont décidé que la Bible n'existait plus. Puisque à l'ONU, à l'UNESCO, on fait des votes qui nient finalement l'histoire de la Bible.
Ouais.
Complètement. Donc, ils ont voté que la Bible n'existe plus. Que le peuple d'Israël n'a jamais été en Israël. Que le temple n'a jamais existé. Et même ils disent Abraham était musulman.
Ouais, exactement.
Ils disent ça. Hein. Donc, vous voyez, gros mensonge. Mais vous voyez, je vais vous dire, l'ONU, Organisation des Nations Unies, je vais vous le dire en hébreu, Goïm ve Goïm, nation et nation, au pluriel. Maintenant, vous prenez les premières lettres, Gimel, Vav, Gimel, ça fait Gog. Je recommence. L'ONU en hébreu, c'est Goïm ve Goïm. Ve au milieu, ça veut dire et. Hein? Nations au pluriel et nations. C'est l'ONU. D'accord ? Les Goïm, c'est les nations. D'accord ? Donc, première lettre de Goïm, c'est Gimel. C'est un G, si vous voulez. Le Vav, pour faire et. Mais avec un vav, on peut faire O. Il suffit de mettre un point dessus. Donc, guimel, O, guimel, Gog. Et voilà. Après l'UNESCO, ben c'est une dépendance de l'ONU. Donc, il ne faut pas s'attendre à des bonnes choses de tout ça. Mais vous pensez bien que Gog va s'affronter à Dieu directement dans cette affaire. Donc Dieu permet pour le moment que les soldats de l'islam pénètrent Babylone, la Babylone moderne, pour que ce mariage entre Ésaü et la fille d'Ismaël, ce mariage a lieu, mais c'est un mariage de raison, et la seule raison, c'est de prendre Jérusalem. Voilà. Ils s'imaginent qu'ils vont y arriver. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Dieu a mis des veilleurs sur les murailles de Jérusalem. Tout le tour. Alors, la guerre contre Jéricho. Quand l'Éternel aura décidé, toutes les forces du mal vont s'écrouler. Toutes les puissances d'égarement vont s'éteindre, emmenant avec elles leurs prisonniers. Le travail de tri sera terminé. Rien n'est plus étonnant que la façon avec laquelle Dieu a dirigé la bataille de Jéricho. Qui est-ce qui était à l'œuvre ? L'armée des cieux. Josué s'est trouvé devant Jéricho. Voilà ce qui s'est passé. Josué 5, versets 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Et voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il ne le reconnaît pas. Hein. « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » C'est maintenant qu'il arrive. Et le chef de l'armée de l'Éternel, c'est Yeshua. « J'arrive maintenant. » C'est important ça. Ça veut dire « je viens ». Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. c'est spirituel. C'est une guerre spirituelle. Et nous participons à cette guerre spirituelle. On n'a pas besoin d'aller en Israël pour faire cette guerre, on peut la faire d'ici.
Amen.
Si Josué s'est prosterné devant ce chef, s'il a entendu les mêmes paroles que Moïse concernant ses chaussures, c'est que ce chef, c'est Dieu lui-même.
Amen.
Et dans le verset qui suit, on en a la preuve. Josué 6, 2. Je le lis, parce que ce personnage, il est là avec son épée, et il est dit, l'Éternel, donc c'est l'Éternel qui parle, dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. C'est l'Éternel qui parle et c'est l'Éternel qui fait la guerre. Je livre. C'est donc Yeshua qui va défendre Yerushalayim. On ne le voit pas, mais c'est lui. Et vous voyez que Josué, là, il ne le reconnaît pas. Encore une fois. Il faut qu'il lui parle. Vous voyez qu'il faut quelque chose pour qu'il le reconnaisse. Mais dans cette bataille, c'est Yeshua qui mène la guerre. Vous voyez, ne croyons surtout pas que la religion de la lune, l'islam, soit invincible. Pas du tout. La durée de son existence à cette religion est décidée dans les cieux par un décret de Dieu. C'est tout. Rien d'autre. Et certains musulmans savent très bien que Jérusalem ne leur appartient pas. Et qu'un jour, le décret de Dieu va tomber. Vous voyez, l'Éternel aurait pu se passer des Hébreux pour provoquer la chute de Jéricho. Il aurait pu le faire tout seul. Hein. Mais il a décidé de les associer. Et sur le terrain, qui est-ce qui dirige ? Encore une image de Yeshua, Josué. Josué est aussi une image du Mashiach. C'est le fils de Nun. Il s'appelait Oshéa, qui signifie déjà « sauve ». Et lorsqu'il est revenu de la terre promise quand il a été espionné, on a changé son nom et il s'est appelé Yehoshua. Ça ressemble, non ? Ça ressemble à quelqu'un qu'on connaît, hein ? Ça veut dire la même chose. Ça veut dire l'Éternel est salut. Et fils de Nun. Vous savez ce que ça veut dire, Nun, en hébreu ? Ça veut dire poisson. Oh mince ! Fils de Nun, fils du poisson. Vous vous rappelez, Éphraïm et Manassé, ils poissonneront au milieu de la terre. Ils poissonneront. Les poissons, c'est nous. C'est nous les poissons. Hein. Quelle stratégie ? Quelle stratégie pour faire tomber cette puissance ? Eh bien, la stratégie, la seule qui existe, c'est l'encerclement. L'encerclement spirituel. Et c'est quelque chose de très important. Pourquoi ? Parce que il nous est dit dans Josué 6:1, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Avez-vous remarqué la chose suivante ? C'est que les écritures du Coran, il est interdit de les discuter dans l'islam. Les paroles sont fermées. Tout est fermé. Tout est verrouillé. On n'a pas le droit de discuter une seule parole du Coran. C'est comme ça. Alors à partir de là, Jéricho est fermé. Ils ne peuvent pas, c'est pas possible, ils ne peuvent pas se rénover. C'est fermé, c'est verrouillé, on ne peut pas toucher. impossible de se rénover. Et quand on est musulman, c'est très difficile d'en sortir, c'est verrouillé de partout. Bien sûr, il y en a qui sortent, parce que Dieu se révèle à eux, mais pratiquement en direct. Mais c'est très difficile de sortir de l'islam. Nous tous, ceux qu'on a connus qui sont sortis, ils en ont payé le prix, hein. Très cher, hein. Alors, il y a eu des espions qui sont rentrés dans Jéricho. Et on a découvert quoi par ces espions? Parce que personne ne pouvait rentrer dedans. Autrement dit, l'islam ne peut pas se moderniser. C'est pas possible, ils n'y arriveront pas. C'est une puissance qui tombera. Alors, les deux espions qui sont rentrés dans la ville ont obtenu des informations pratiques. Ils ont obtenu des informations par Rahab, la prostituée. Josué 2, verset 11. Notre cœur fond. Donc les habitants de Jéricho, qui sont barricadés dans leur système, il est dit que leur cœur fond. Il ne s'est plus élevé de souffle en l'homme face à vous, face aux Hébreux. Je reprends le texte un peu plus haut. Adonai a desséché les eaux de la mer de Jon face à vous. À votre sortie de Mitzraïm, ce que vous avez fait aux deux rois des Moris qui sont au passage du Yarden, à Sion et à Og, que vous avez frappé d'interdit, nous l'avons entendu et notre cœur fond. C'est-à-dire que il y a un découragement qui atteint le cœur de ces gens. Un découragement, et ce découragement provient des exploits que les Hébreux ont faits par la main de Dieu. Regardez, parce qu'on se dit, mais pourquoi y a-t-il eu tant de guerres contre Israël depuis sa naissance, 1948 ?
Le lendemain même,
cinq armées contre. Et c'était vraiment la main de Dieu qui... Parce que si vous passez le long du lac de Tibériade, au bout du lac, il y a une petite ville, un petit village, et quand on passe, on voit un petit canon, tout petit canon. Allez, il n'est pas plus grand que la table. Vous voyez, pas plus grand que ça. Et c'est un canon qui avait été donné donc à la naissance de l'État d'Israël en 1948 par un pays d'Amérique du Sud. Et il y avait deux canons comme ça, donc qui appartenaient à des juifs. Voilà. Le pays est né en un jour. Le lendemain, cinq armées arabes attaquent le pays. Et eux, ils ont deux petits canons. Les Syriens arrivent avec des chars d'assaut, des camions chargés de munitions, etc., etc. Voilà. Ils installent leur campement au pied du Golan, donc la tente d'état-major. Les Juifs tirent un coup de canon. Un. Boum. La tente d'état-major avec tous les chefs. Dégagé. Un deuxième coup de canon tombe sur une citerne d'essence. Ça prend feu, les camions autour explosent, etc. L'armée syrienne fait demi-tour. Ce canon, il est exposé. Est-ce que c'est pas la main de Dieu, ça ? C'est Dieu qui mène la guerre. Alors, à force de ces guerres, où les ennemis d'Israël prennent à chaque fois une tannée, excusez-moi de dire comme ça, ils finissent par se décourager. Alors, ils vont chercher de plus en plus loin des armes, des pays qui peuvent les aider, et ils vont chercher jusqu'au bout du monde. Et à chaque fois, ils s'en prennent une. Parce qu'ils s'attaquent à Dieu, tout simplement. Et au bout d'un moment, il se décourage. Et c'est comme ça que ça s'effondrera. Parce qu'ils ne prendront pas Jérusalem. Yeshua a mis ses gardiens autour de Jérusalem. Mais non, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se passer des choses dans le pays d'Israël. Attention, il y a des choses qui doivent changer en Israël. Des mentalités qui doivent changer, des façons de vivre, etc. Mais le Seigneur sait ce qu'il fait.
Je les attirerai au désert.
Voilà. Alors, Ismaël, il est porteur d'une idéologie dont l'un des objectifs, c'est de... Vous savez qu'il crie beaucoup. Vous avez remarqué qu'il crie beaucoup. Et il y a un verset, c'est Jean-Marc Taubois qui a fait remarquer ça. Il y a un verset dans Deutéronome 31, verset 29. Dans la version seconde, il est dit « Mais dans la suite des temps, il vous arrivera malheur pour avoir fait ce qui déplaît au Seigneur. » Alors c'est vrai qu'il y a eu la Shoah. Mais beaucoup de gens disent « Ah mais Dieu est en train de les rassembler et puis là il va encore les frapper dessus parce qu'ils ont le cou raide et puis qu'il faut les changer, etc. » Mais c'est très méchant de dire ça. Très très méchant de dire ça, parce que c'est pas ça que Dieu est en train de faire. Dieu est en train de leur donner leur terre, et progressivement ils changent leur cœur. Hein? Bon, alors, qu'est-ce que c'est que ce malheur de la fin des temps? Eh bien, c'est encore une fois une mauvaise traduction. C'est une mauvaise traduction. Et Jean-Marc Taubois fait remarquer que la vraie traduction, c'est « On va proclamer sur vous le malheur ». C'est pas pareil. Et qui est-ce qui proclame le malheur sur Israël? C'est Ismaël. Ismaël, qu'est-ce qu'il fait? Il court partout, il s'introduit dans toutes les instances de l'UNESCO, de l'ONU, etc. pour proclamer le malheur sur Israël. Essayer de délégitimer Israël, etc., etc. C'est la technique de l'islam pour appeler les nations contre Israël. Il proclame le malheur. Et ça me rappelle cette parole de l'Apocalypse, chapitre 16, versets 13 et 14. « Et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, des esprits de démons, trois esprits impurs, hein, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. » Eh oui, et ça a commencé par Arafat. Et moi, Arafat, pourtant je ne connaissais pas plus que ça, mais je l'ai tout de suite appelé la grenouille. Eh oui. Il était égyptien, ça n'a pas d'importance. Donc, Joël nous dit dans Joël 3.2, « Je rassemblerai toutes les nations, et là, j'entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon peuple, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon peuple, qu'elles se sont partagées. » Ça va, vous tenez le coup? Bon. C'est donc un conflit spirituel. Mais pour Jacob, c'est un temps d'angoisse. Maintenant, on va se mettre de l'autre côté, si vous voulez. Pour Jacob, c'est un temps d'angoisse. Et il y a quelque chose de très intéressant dans la Bible qui concerne l'histoire du roi Ézéchias. Ézéchias a vécu de 716 à 687 avant Jésus-Christ. C'était un roi fidèle. Et un peu avant son règne, en 722 avant Jésus-Christ, les Assyriens ont emmené en déportation le royaume du Nord. Donc vous imaginez, les Assyriens étaient aux frontières du royaume du Sud. Les Assyriens, je vous rappelle, c'est Ninive et compagnie. Et Ninive et compagnie, c'est pas détendre, hein. Quand ils faisaient jamais de prisonniers, hein. Les prisonniers, on les pendait par les pieds, le long des murailles, et puis on attendait qu'ils grillent au soleil, comme ça. Ou alors, on coupait la corde et ils tombaient sur des pieux. On faisait des pyramides avec leur tête. Ça, c'était à l'entrée de la ville pour bien montrer aux gens, méfiez-vous, ici, c'est comme ça. Donc, vous voyez, les Assyriens, c'était pas détendre. Ils étaient aux portes du royaume du Sud, ils ont pris des villes. Là, il faudrait faire toute une explication, mais ils ont pris des villes du royaume de Juda et ils se sont présentés devant Jérusalem. Un temps d'angoisse pour Juda. Et dans 2 Rois 19:3, on lit « Ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel et il n'y a pas de force pour l'enfantement. » C'est exactement la même chose qui va arriver. Événement prophétique. Dans Jérémie 30 au verset 7, on peut lire « Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a pas eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. » La parole passe au-dessus de tout. L'ennemi d'Ézéchias était un roi particulièrement arrogant et sûr de lui. Avez-vous remarqué que les chefs musulmans sont particulièrement arrogants et sûrs d'eux? Vous avez remarqué ça? Très orgueilleux. Très, très orgueilleux. Ce roi-là, il avait conquis toutes les nations d'alentour. Tous les dieux des nations d'alentour avaient donc dû se courber devant le dieu de ce roi-là. Et ce roi, dans la traduction second, on l'appelle Sanchérib. Et ce roi prétendait même que c'était la volonté de l'Éternel qu'il s'empare du pays d'Israël. 2 Rois 18-25. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce lieu pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Et Dieu m'a dit, en voulant encore un. Pour le maintenir éloigné, et c'est ce que Israël fait malheureusement de temps en temps, Ézéchias lui avait donné tout l'argent du temple. Qu'est-ce que fait Israël pour essayer de garder la paix? Il donne des morceaux de terre. Voilà. Donc ils essayent d'avoir la paix comme ça, en faisant des petits cadeaux à droite à gauche, et ils n'ont jamais la paix. Jamais. Ils se sont partagés ma terre. D'accord? Sanchérib défiait l'Éternel. Il s'est même arrangé pour parler au peuple sans parler au roi Ézéchias. Donc vous voyez qu'il prend des détournements. Comment on fait maintenant? Eh bien par les médias. On parle au peuple. Il promettait au peuple, devinez quoi? De mettre le peuple dans un bon pays d'oliviers et de miel. Mais pas de chance pour lui, le peuple a été fidèle au roi Ézéchias. Sanchérib était arrogant et puissant comme Goliath. Alors Ézéchias a déchiré ses vêtements. Et c'est là ce qui se passe quelque chose. C'est qu'à ce moment-là, Israël se met à genoux. Et il prie son Dieu. Ézéchias a déchiré ses vêtements, il a pris le sac et la cendre, et puis il est monté à la maison de l'Éternel. Et comme le roi Sanchérib avait écrit une lettre pour dire « Allez, maintenant c'est terminé pour vous, rendez-vous, sinon on vous détruit, puis ça va aller vite. » Sanchérib, il avait donné cette lettre au roi Ézéchias. Ézéchias avait la lettre de Sanchérib. Ézéchias, il a pris la lettre, il est dit, il l'a lue, et puis il est monté à la montagne, à la maison de l'Éternel, et il a montré la lettre à Dieu. Voilà. Regarde, une armée de 180 000 hommes autour de Jérusalem. Voilà la lettre, voilà. Regarde, Seigneur, ce qu'ils veulent faire sur nous. Mais nous, nous nous mettons à genoux devant toi. Et nous n'avons pas les moyens de nous défendre. C'est ça. C'est ça qui se passe. Et c'est ça qui va se passer. Entends les paroles de Sanchérib. Entends les paroles qui a envoyé Rabshaké pour insulter le Dieu vivant. Juste après cette prière, il est sorti du temple et le prophète Ésaïe a envoyé un message à Ézéchias. Et il a dit la chose suivante, 2 Rois 19-25. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin ? Vous vous rendez compte ? N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin ? J'ai préparé ces choses de loin. Rien n'est au hasard. Je les ai résolues dès les temps anciens. Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduisisses des villes fortes en monceaux de ruines. Parole de réconfort, hein ? Mais il faut la croire, hein ? Parce qu'attention, dehors, 180 000 hommes. Hein. Et cette parole est pour notre temps. C'est pour notre temps. C'est d'autant plus étonnant que Dieu a préparé de très très loin toutes ces histoires. Moi j'aime beaucoup ça. Et on vit vraiment, ce plaisir de voir vraiment le déroulement du plan de Dieu à notre époque. Dieu est en train de ramener son peuple vers lui et mettre son peuple à genoux, supplier et dire « Seigneur, sois notre roi. Viens et sois notre roi. » Et vous pensez bien que Dieu n'a pas ramené son peuple pour le détruire, mais pour lui donner son héritage. Maintenant, si nous étudions la signification du nom de Sanchérib, c'est de l'araméen. En vérité, c'est Sanéchiv. Voilà, son vrai nom en araméen, c'est Sanéchiv. Sanéchiv. Ça signifie, écoutez bien, Sin a multiplié les frères. Vous vous rappelez Sin, le dieu lune ? Le dieu lune a multiplié les frères musulmans. Et voilà. Nous savons tous que l'islam a pris la lune, les frères musulmans sont nombreux dans le monde, l'islam a pour but de prendre Jérusalem, de l'encercler, etc. Qu'est-ce qui est arrivé à la fin ? 2 Rois 19, versets 34 à 37. Je protégerai cette ville pour la sauver. À cause de moi, à cause de David, mon serviteur. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna. Il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélec et Charetser, ses fils, le frappèrent avec l'épée. Il a été tué par ses propres enfants. La délivrance de Jérusalem. Yeshua est sorti en pleine nuit. Cette nuit-là, de deux qui seront dans un lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Cette nuit-là, c'est la même nuit. Sin a multiplié les frères, d'accord, mais Sin est détruit. C'était une attaque prévue de longue date. Et vous savez que dans le calendrier juif, le 15 de chaque mois correspond toujours à la pleine lune. Eh bien, Pessah, c'est le 15 de Nissan, le peuple est sorti d'Égypte. Yeshua est ressuscité le 15 Nissan. Les Juifs devaient être détruits par Aman le 13 Adar. Les Juifs se sont vengés le 13 et le 14, et le 15, ils étaient libres. Le 15, ils sont toujours libres. La parole de Dieu arrive toujours. Alors, je voudrais terminer en vous disant, vous avez parlé d'une prophétie qui ne s'est jamais réalisée et qui ne pouvait pas se réaliser. Alors ça, c'est Jacques Collant qui m'a parlé de ça, qui nous a parlé de ça, et j'ai trouvé ça tellement étonnant. Quand il parle des deux songes de Joseph, le premier songe concerne la gerbe qui se dresse, et puis toutes les gerbes, les 11 gerbes donc de tous ses frères, se courbent devant lui. Ça s'est réalisé à son époque, d'accord ? Mais ça se réalise aussi à la fin, en ce sens que Machiar ben Yosef se dresse et toutes les tribus se courbent devant. Mais il y a autre chose. Alors le deuxième songe, il est très spécial. C'est dans Genèse 37, versets 9 à 11. Il y eut encore un autre songe et raconta à ses frères en disant: « J'ai fait encore un songe où j'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. » Il le répéta à son père et à ses frères, et son père le blâma et lui dit: « Qu'est-ce qu'un pareil songe ? Et quoi, nous viendrions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre à tes pieds. » Les frères de Yosef le jalousèrent, mais son père attendit l'événement. Écoutez un peu. Jacob comprend que lui, il est le soleil, que Rachel, c'est la lune, et les étoiles, c'est les frères. Mais Rachel est morte à ce moment-là. Rachel est morte. Comment voulez-vous qu'elle aille se prosterner ? Elle est morte. Et on nous dit, son père attendit l'événement. Bizarre quand même, non ? Vous trouvez pas ? Et cet événement n'est jamais arrivé. Mais maintenant, passons un peu plus loin. Au moment où Jacob arrive en Égypte, il est écrit dans Genèse 46, versets 28 à 32, il est en Égypte, au pays de Goshen, il est installé, etc. Et Jacob va mourir. Il est vieux, et il envoie Judas pour chercher Joseph. Et il est dit, Jacob avait envoyé Judas en avant vers Joseph pour qu'il lui préparât l'entrée à Goshen. Lorsqu'ils furent arrivés, Joseph fit atteler son char et alla au devant d'Israël son père. Écoutez déjà ça. Jacob envoie Judas et Joseph va vers Israël. Il ne va pas vers Jacob. Vous comprenez la différence? Important, hein? À sa vue, il se précipita à son cou et pleura longtemps dans ses bras. Et Israël dit à Joseph, « Je puis mourir à présent, puisque j'ai vu ta face, puisque tu vis encore. » On ne voit pas la réalisation du soleil, de la lune et des 11 étoiles qui se courbent devant Joseph. On ne le voit pas. Alors c'est quand? Ben c'est à la fin des temps. Et comme il s'agit d'astres, il faut le comprendre sous un angle spirituel. Parce que je vous ai dit, Rachel était morte. Donc c'est vraiment quelque chose de spirituel qu'il faut comprendre là. Et là, il y a deux versets dans la Bible qui sont écrits de la même façon. Je lis l'un des deux. C'est dans 1 Chronique 16, versets 16 et 17, mais vous avez aussi dans le psaume 105, versets 9 et 10. Ça dit la même chose. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait avec Isaac, il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Quatre étapes. Je recommence. L'alliance, il la traite avec Abraham. Il fait un serment avec Isaac. Il l'érige en loi pour Jacob et en alliance éternelle pour Israël. Eh bien, ce qui va se produire à la fin des temps, l'angoisse de Jacob, c'est que Jacob, il dit, je puis mourir à présent, puisque j'ai vu ta face. À la fin des temps, Jacob meurt et c'est Israël qui le remplace. Vous comprenez? Je puis mourir maintenant que j'ai vu ta face. Maintenant que j'ai vu ta face, le voile, vous rappelez? On en a parlé hier. Maintenant que je vois ta face, que je sais qui tu es, alors Jacob peut mourir. Et c'est Israël maintenant. Et c'est ça la transformation qui se passe à l'intérieur de Jérusalem. C'est absolument extraordinaire. Que le Seigneur vous bénisse.
Amen.